Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Chers auditeurs, chers téléspectateurs et à nos amis qui nous suivent via les réseaux sociaux, notamment notre page Facebook, bonsoir et bienvenue dans votre émission de débat, Le Grand Dialogue. Au Mali, le mois d'août est dédié au reboisement, une initiative qui vise à améliorer le cadre des vies des populations et récupérer les espaces vides ou verts. Cette campagne se tient également au moment où dans d'autres localités, des populations sont inquiètes face à l'avancée du désert. Que deviennent donc les plans après reboisement? Comment faire un bon suivi des plantes? On en parle avec trois invités. Brima Traoré, président de la plateforme Climat et Adaptation. Fatoumata Sidibé, agroécologiste et membre de RESAPAC. Moussa Koulibaly, pépiniériste, entendez par là ceux qui vendent des pépinières. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
La première question, nous allons l'adresser à Brima Traoré. Le mois d'août, mois de reboisement, comment l'initiative est suivie à travers le pays?
Ok, merci bien pour cette question. Comme vous le savez, notre pays, c'est un pays qui est réputé d'être désertique, donc avec un taux de déforestation très élevé. Donc à travers tout ça, donc, les autorités ont décidé de dédier ce mois d'août comme le mois de reboisement. Donc c'est pour cela que vous allez voir à travers le Mali qu'il y a beaucoup d'initiatives de reboisement qui sont menées par les jeunes, par des associations, pour pouvoir planter suffisamment d'arbres et enfin de contribuer à bien alimenter la végétation.
Mais est-ce que cette initiative est bien suivie dans le pays?
Oui, c'est très bien suivi parce que quand vous regardez actuellement, vous allez voir que pratiquement chaque jour, il y a une association qui organise une activité de reboisement, que ce soit à Bamako ou bien que ce soit dans d'autres localités. Donc là, il y a même des dynamiques qui sont là depuis plusieurs années et des associations qui le font plusieurs années. Donc cette dynamique est suivie partout au Mali.
Fatoumata Sidibé, vous êtes agroécologiste. Avant d'aller au fond, vous poser cette question, c'est quoi l'agroécologie?
Alors l'agroécologie est tout d'abord une agriculture qui répond à tous les principes de l'écologie. Et les principes de l'écologie sont le respect de l'environnement, le respect de la santé de l'être humain et tout. C'est une production qui doit être de qualité, sans pourtant atteindre ni avoir aucun effet sur l'environnement.
Alors, en venant à notre émission de débat, est-ce que vous pensez que cette campagne de reboisement qui est en cours depuis le début de ce mois, qui tend vers sa fin déjà, a porté fruit?
Les autres campagnes ou ces campagnes même?
Ces campagnes-là déjà. Oui. Nous allons parler des autres campagnes
à venir. Je pense que ces campagnes ont porté fruit parce que, comme M. Traoré l'a dit, plusieurs associations et plusieurs organisations mettent en place des journées de reboisement, des activités pour faire le reboisement. Ce qui est très important, je pense que la campagne a porté fruit.
Moussa Koulibaly, on vous a acheté assez de pépinières pour cette campagne?
Oui, on en a assez. De la commune 1 jusqu'à la commune 6, on en a assez de pépinières. Et sur toutes les spéculations.
Voilà. Les?
Sur toutes les spéculations.
Sur toutes les spéculations. Est-ce qu'on vous a... Il y a eu assez d'achats de pépinières pour cette campagne de reboisement? Et quel genre de plants ont été beaucoup plus achetés?
Ah bon, pour cette campagne, bon, je peux dire que chez nous, les pépiniéristes, donc nous attendons toujours les clients. Ouais, les variétés les plus achetées actuellement, c'est les ficus jeda et puis les plantes fruitières. Ce qu'on plante dans les champs, tels que les oranges et les agrumes, et les manguiers, ainsi que les papayes aussi.
Oui. Brima, comment vous pouvez répondre à ça? Vous dites que la campagne se passe normalement, assez de plants d'arbres. Apparemment, le marché se fait un tout petit peu. Ou bien il y a un autre marché d'approvisionnement de plants également.
Oui, bon, pour cette année, ça se comprend, ce que M. Koulibaly a dit, parce qu'on est en mois d'août. Mais quand vous le constatez, il n'y a pas suffisamment de pluie. Parce que généralement, les gens font du reboisement en fonction de la quantité de pluie qui arrive. Bon, cette année, vous voyez qu'il y a un peu de crise de pluie, ce qui fait que les gens sont en retard. Sinon, dans les années précédentes, à pareil moment du mois d'août, ça trouve que vraiment on cherche même les plantes à acheter. Maintenant, au-delà même des pépiniéristes, il y a d'autres qui font aussi des plants personnels. Donc, ils sont pas des pépiniéristes, mais ils produisent des pépinières. Donc, pour pouvoir planter. Bon, je pense que même ça aussi, ça peut jouer sur le marché des pépinières.
Voilà. Madame, quel est l'impact donc de ces campagnes de reboisement sur le pays?
Alors, le Mali étant un pays vraiment où le changement climatique a un fort impact avec la désertification, la sécheresse. Donc, ces campagnes de reboisement, et aussi, il faut signifier que dans nos pays, on n'a pas beaucoup d'adaptation face au changement climatique. Donc, ces campagnes de reboisement sont l'une des meilleures manières pour faire face aux défis du changement climatique.
Mais est-ce que les résultats sont visibles? On sait les bienfaits de cette campagne, mais est-ce qu'on sent déjà les résultats de cette campagne, par exemple, pour atténuer un tout petit peu, comme vous venez de le dire, les effets du changement climatique?
Bon, tout d'un coup, maintenant, non. On ne le sent pas trop, mais ça ne signifie pas que c'est là. Parce que c'est des années de destruction des forêts. Donc, ça ne peut pas être remplacé seulement à un moment. Ce n'est pas facile. C'est des années de destruction des forêts. Donc, pour reboiser, il faut aussi des années et des années pour que ça puisse prendre.
Alors, nous, on est parti à l'intérieur pour demander l'avis de la population également sur ce mois d'août, campagne de reboisement en cours qui se déroule un peu partout dans le pays. Je vous invite à écouter ce reportage de Mahaman Babakunta sur la question.
En 2022, près de 17 millions de pieds d'arbres ont été plantés au Mali selon le ministère en charge de l'environnement et de l'assainissement. Malgré cette initiative, les deux tiers du territoire national restent toujours désertiques. Des populations se disent inquiètes face à la situation. C'est le cas à Ségou et à Diréhi dans la région de Tombouctou.
On a le courage de couper, mais on n'a pas le courage de les planter. Avec le monde développé comme ça, avec le changement climatique, on est en train de voir que le sable est en train de nous manger et on est assis, on regarde. Vraiment, ça fait honte.
Chaque jour, tous les chefs de famille paient les prix du charbon, les prix du fagot pour cuisiner. Mais aucun chef de famille ne plante un arbre pendant une année à Ségou. Donc chaque jour, on crie, on chante, il y a la chaleur. Il y aura la chaleur forcément parce que le changement climatique est une réalité.
Hamidou Diko est membre du bureau communal de la jeunesse de Diréhi au nord du pays. Il demande aux autorités d'accompagner les populations, notamment les jeunes, pour le suivi des arbres plantés.
Car nous implantons des arbres sans suite, sans suivi, alors ces arbres-là meurent ou bien seront broutés par les animaux de passage. Surtout, il y a un manque d'accompagnement, surtout côté État. Donc souvent, on a envie de le faire, mais vrai dire, on n'a pas d'appui.
Ce manque de suivi inquiète également des environnementalistes. C'est pourquoi Abdrahmane Sanogo, du bureau d'études Sahel Environnement, propose des pieds d'arbres qui n'ont pas besoin de suivi.
Il y a des essences locales. Si ça s'est planté, ça n'a pas besoin de trop de suivi. Ça pousse automatiquement et ça grandit. Par contre, si c'est des espèces exotiques, là, il faudra vraiment un suivi. C'est ça la différence. Sinon, avec le rythme avec lequel nous sommes en train de partir, le désert risque de venir, de quitter la zone du centre, venir jusqu'aux portes de Bamako.
Le reboisement permet de protéger non seulement la biodiversité, mais aussi lutter contre le réchauffement climatique, souligne des environnementalistes.
Alors, M. Koulibaly, vous venez d'écouter ce reportage de Mahaman Babakunta sur la campagne de reboisement en cours. Est-ce que, au niveau de, après achat de pépinières, vous intervenez un tout petit peu dans le suivi des plants?
Oui, mais pas toutes les fois. Et rarement, on intervient en ce qui concerne les entretiens et les suivis. Bon, généralement, ici, c'est un problème, quoi. Les gens ne font pas de suivi. Ils ne font pas de suivi. Et ils ne font que planter seulement et puis ça va, quoi. Sinon, planter un arbre sans suivi, bon, je crois que ça va pas assez loin. Voilà. C'est ce que nous assistons maintenant.
Mais est-ce que vous-même, dans votre travail, vous proposez ce suivi-là également? Peut-être que le client ne sait pas quand il va acheter des pépinières qu'il y a ce service également que vous offrez un tout petit peu.
Oui, nous offrons ce service-là aux clients. Mais généralement, le coût, ça pose souvent des problèmes. C'est pour cela que certains préfèrent s'arranger aux côtés de leur gardien dans les différentes localités. Pour faire leur suivi et d'autres entretiens.
Monsieur Brahima Traoré, on plante, mais les résultats ne sont pas visibles. Qu'est-ce qui explique cela, comme vous venez de l'entendre dans ce reportage?
Oui, effectivement, tout ce qui a été dit dans les reportages, c'est vrai. C'est des choses qui se constatent un peu sur le terrain. Mais comme on l'a dit, les reboisements, ça ne peut être comblé lorsqu'il n'y a pas de suivi, lorsqu'il n'y a pas d'entretien. C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'initiatives vraiment qui viennent, qui plantent. Mais par derrière, tu trouveras que le taux de survie est vraiment faible. C'est pour cela que nous, au cours de nos initiatives, non seulement on plante, on intègre aussi le volet suivi et entretien. Parce que nous, on travaille, on collabore avec le service des eaux et forêts qui sont vraiment en charge de surveiller les forêts dans lesquelles nous nous plantons. C'est pour cela que vraiment, nous, on capitalise souvent des taux de survie très élevés. L'année dernière, on a eu un taux de survie qui va jusqu'à 75% parce qu'on a planté 300 arbres. Donc, avec un taux de survie de 75%. Vous voyez que déjà, nous, on accorde vraiment une importance capitale au suivi et à l'entretien. Parce qu'on paie les plats et par derrière, on met aussi un petit fonds à côté pour pouvoir suivre ça en collaboration avec les eaux et forêts. Ce qui fait que vraiment, nous, nos plantations, vraiment, ce sont des activités vraiment reçues.
Mais si avec votre réseau, comme vous venez de le dire, ça marche avec le suivi des plans, comment ne pas élargir également ce suivi de plans pour que les autres également puissent suivre cette démarche-là? Parce qu'on a l'impression que dès qu'on plante les arbres, rarement sont ceux qui retournent également voir ce que j'ai mis là, sous la terre. Est-ce que ça continue de vivre?
Exactement. C'est l'un des volets aussi, c'est l'un des volets sur lesquels notre réseau aussi travaille, parce qu'on a plus de 330 acteurs qui sont vraiment dédiés pour la protection de l'environnement. Nous sommes des professionnels, il y a des professionnels parmi nous. C'est pour cela que dans nos campagnes, dans les campagnes de reboisement, nous passons des messages. Nous produisons même des petites vidéos de sensibilisation pour vraiment interpeller les autres associations, les autres initiatives qui vont planter des arbres et en même temps de leur demander de mettre vraiment des volets suivi et entretien. Parce que c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant et ce qui nous permettra aussi de gagner les paris de la désertification. Parce que si on plante, on ne suit pas, vraiment, ça devient vraiment de la peine perdue. Voilà.
Madame Sidibé, comment fait-on le choix des plants?
Alors d'abord, il faut savoir que les arbres n'ont pas la même essence. Donc il faut faire le choix des plants sur plusieurs facteurs. D'abord, sur le sol. Les arbres diffèrent par le type de sol, sur les facteurs abiotiques qui peuvent être l'humidité des sols. Certaines plantes sont plus aptes à supporter l'humidité et aiment être dans des endroits humides et d'autres préfèrent plus des endroits moins humides. Donc, il faut aussi choisir un peu ce qui est difficile chez nous, la température. Oui, il faut choisir aussi la température, sur quel côté on va mettre la plante. C'est à quelle température là, on sait, c'est des réalités qui sont très difficiles ici. Donc, sur ces choix, quand même, c'est important de faire le choix du plan sur ces facteurs-là.
Alors, on est au Mali, on va essayer d'avoir des exemples plus faciles à comprendre également. Par exemple, je suis de Mopti. Je veux planter des arbres en fonction des types de terres qu'on retrouve dans la zone de Mopti. Quelles plantes vous préconisez pour ces zones ou quelqu'un qui est à Sikasso, quelles plantes préconisez pour cette partie-là et quelqu'un qui est au Grand Nord comme troisième exemple, quel genre de plantes on peut avoir?
Alors, il faudra préciser que ce n'est pas parce qu'on est au Mopti que tous les sols de Mopti sont différents de tous les sols. Mm-hmm. En fait, les sols, c'est différent. Ce n'est pas forcément dans les zones. C'est vrai, le sol peut être spécifique à une zone, mais généralement, c'est soit un sol sableux, soit lumineux, soit argileux. C'est en fonction de ces trois types qu'on peut faire le travail. Pas en fonction, en vrai, dis-je, de la localité. Dire que je suis à Gao, je vais planter ce genre, non. C'est en fonction du sol. On étudie même le sol pour savoir, ce sol est lumineux, ce sol est sableux.
D'accord. Pour un sol sablé, quel genre d'arbre?
Pour un sol sableux, on ne va pas donner un arbre spécifique. Là, il faut des trucs, mais pour un sol sableux, généralement, il faut des arbres qui aiment beaucoup l'aération de leurs racines. Parce qu'il y a plus d'aération. Mais il faut dire que les sols sableux ne font aucune rétention d'humidité. Donc, il faut savoir aussi qu'en saison sèche, ces arbres, ces sols sableux vont n'avoir aucune rotation d'eau. Voilà, c'est ça.
Et pour un sol argileux
Sur les arbres à plantation, difficiles sont pas la forêt, bien sûr, parce que la forêt, elle se régénère, c'est possible avec l'humus et tout. Mais pour les arbres à plantation, beaucoup d'arbres ne supportent pas les sols argileux. Beaucoup d'arbres ne supportent pas les sols argileux. Le meilleur sol est les sols limoneux, oui, ou limoneux sableux, c'est ça.
Monsieur Koulibaly, est-ce que lors des achats, vous intervenez dans tout ça, les qualités des sols? Est-ce que vous intervenez dans tout ça pour un peu guider les clients qui viennent vers vous?
Oui, on intervient souvent, mais pas toutes les fois. Généralement, quand on intervient chez les clients, s'il a un type de sol qui n'est pas adapté, donc on lui propose de corriger. Par exemple, un sol argileux, on lui dit d'apporter un peu de terre limoneuse, ou bien un peu de bouse de vache, ou bien un peu d'argile, pour corriger un peu la texture, quoi, la texture du sol.
Du sol.
C'est ça, effectivement. C'est tout.
Donc, toujours pour le suivi de ces plants-là également, est-ce que quand vos clients arrivent également chez vous, ces plants, c'est uniquement ici à Bamako, où on envoie dans les champs, ou c'est dans la forêt également?
Oui, bon, chez les pépiniéristes, mm-hmm. on fait différentes essences. On fait les fruitiers, les plantes exotiques, les plantes d'ornement, et puis les essences locales aussi. Bon, ceux qui viennent acheter pour les plantes fruitières, donc ils amènent ça dans les champs. Bon. Généralement, les plantes d'ornement, c'est dans les habitations. Est-ce que vous voyez? Voilà.
Madame Sidibé, je reviens encore vers vous. Comment faire un bon suivi des plants?
Alors, pour faire un bon suivi des plants, comme toute chose naturelle, il faut savoir de quoi a besoin le plant.
Et comment savoir ce dont un plant a besoin?
Oui, mais ça, ce sont des recherches d'abord qui sont déjà là. De quelle matière le plant a besoin, de quel humus le plant a besoin, le plant a-t-il besoin de plus d'azote, de plus de phosphore, de plus de... Surtout dans les champs, c'est ce que je vous dis, de plus de potassium. Est-ce que le plant a besoin d'abondance, d'arrosage, ou de moins d'abondance ou de fréquence? Le plant doit-il être aéré toujours au nouveau sol? C'est le truc qu'il faut savoir. Et aussi, chaque plant... À un moment de, il y a un calendrier agricole qu'il faut toujours respecter. Il y a un calendrier de plantation qu'il faut respecter. Si quelque chose doit être planté en hivernage, tu vas planter ça en saison chaude, c'est pas possible. Ou tu vas pas planter ça en saison fraîche, c'est pas possible. Donc il faut toujours aussi respecter le calendrier de plantation.
Mais qu'est-ce qui fait que ces démarches dont vous venez de citer ne sont pas suivis d'après ce que les gens viennent de dire, que les plans sont là, mais il n'y a pas de suivi? Est-ce que déjà, au niveau des campagnes, je vois M. Travré sourire, je vais vous reposer la même question. Est-ce qu'au moment du reboisement, on suit toute cette démarche-là dont vous venez de citer?
Il faut dire que pour faire la suivi de ces plans, on ne dirait pas des spécialistes, mais il faut prendre des personnes qui s'y connaissent. Et généralement, ça demande du fond. Voilà. C'est donc le vrai problème. Donc, payer ces personnes, amener, donc ça décourage plusieurs personnes,
si je
pense.
Si je veux comprendre, comme on le dit en bambara, « Tchamambak en confé », quoi. Voilà. C'est-à-dire, on se lève simplement, c'est comme on jette des courriers, on se lance pour le faire.
Voilà. Il faut des personnes qui s'y connaissent. Peut-être au fur et à mesure que tu fais à côté de cette personne, tu vas apprendre. Mais ouais, même si la personne t'explique, on le sait tous, c'est pas facile de le connaître. La personne peut juste aller voir le plan et savoir ce que le plan a. Donc, c'est ça le problème. Et il faut aussi dire qu'il y a un manque d'informations dans nous, un peu sur ça. Il y a un manque d'informations sur la nouveauté agricole, sur ça aussi. Il y a beaucoup de ça.
Brima, je vous pose la même question. Comment faire un meilleur suivi des plants?
OK. Donc, c'est très simple. Hein. Comme Fatmata l'a dit, déjà, et planter un arbre, c'est pas du hasard qu'on fait. Il faut vraiment avoir des conseils et avoir vraiment les appuis d'un technicien. Et c'est pour cela qu'il y a les services des eaux et forêts qui sont là pour tout le monde, pour pouvoir accompagner la population et à faire vraiment du reboisement efficace. Pour moi, le reboisement efficace, c'est quoi? Vous avez planté de l'arbre. Et l'année dernière, vous avez suivi que vraiment ça atteint un certain niveau de maturité. Donc, c'est pour cela que nous, on demande toujours aux gens, si vous voulez faire du reboisement, faire recours vraiment à un spécialiste, même si vous n'êtes pas un spécialiste. Il y a des gens vraiment qui sont aguerris, même les pépiniéristes, ils peuvent vraiment vous donner de bons conseils pour pouvoir vous aider à faire des plantations. Et puis aussi, même pour le suivi, hein, comme elle a dit aussi, donc le suivi, ça demande quand même un certain nombre d'itinéraires qu'il faut suivre. À quel moment il faut faire le désherbage, à quel moment il faut faire l'arrosage, parce que c'est ça aussi le problème du reboisement au Mali. Donc on reboise, dès que c'est la fin de la saison de pluie, bon, personne ne revient voir. Vous voyez, donc la plante a besoin souvent de l'eau pour pouvoir quand même s'agrandir. Même s'il n'y a pas ce suivi pour faire l'arrosage, pour faire l'entretien, vous voyez que vraiment, ça sera du travail perdu.
Alors, vous gardez toujours la parole. Dans le reportage, tantôt, il y a un monsieur qui disait que, un écologiste qui disait qu'il y a des plantes également, des plants également qui ne demandent pas assez de suivi. Est-ce que la réflexion ne peut pas être à ce niveau-là également? Vu que nous plantons chaque année, le résultat n'est pas tellement visible. Est-ce qu'il n'est pas lieu maintenant de faire des plans qui n'ont pas besoin d'assez de suivi?
Exactement. Ça aussi, c'est très important, surtout quand vous faites un reboisement, le choix de l'espèce. Le choix de l'espèce, parce qu'il est déjà prouvé qu'il y a des espèces qui sont vraiment résistantes par rapport aux conditions climatiques du Mali. Moi, je prends l'exemple sur le caïcédra, qu'on appelle Diala au Bamara. Mm-hmm. Chaque année, cette année, nous, on a planté 300 caïcédra. Le choix, parce que c'est à Koulouba, on trouve que le sol là-bas vraiment est un peu dur. Donc, le caïcédra, c'est un arbre qui est réputé d'être vraiment résilient et qui peut résister vraiment même à des poches de sécheresse. Parce qu'on est dans un pays là où souvent il peut y avoir des poches de sécheresse. Dans ce cas, il faut avoir des arbres vraiment qui peuvent résister à ça. Donc, c'est pour dire que vraiment, M. Sandogo, c'est M. Sandogo, je le connais très bien. Il est même parmi nous. Ce qu'il a dit, c'est vraiment c'est vrai. Donc, faire choisir déjà les plantes qui résistent, vraiment, c'est très bien.
Moussa Koulibaly, est-ce que vous avez des plantes que vous vendez ici qui nécessitent moins de suivi? Si oui, lesquelles?
Bon, généralement, dans nos pépinières, les plantes qui ont besoin de moins de suivi, généralement, c'est les essences locales. Généralement, les plantes qui se trouvent dans nos forêts, telles que les djala, banan, gomme arabique, et ainsi de suite. C'est des essences-là qui n'ont pas besoin tellement d'entretien. Les eucalyptus aussi.
Est-ce que ce marché est assez rapide?
Non, ce n'est pas rapide. Si ce n'est pas la commande, nous, on ne les fait pas tellement. Généralement, on les fait par commande.
Et chaque plant peut coûter jusqu'à combien?
Bon, ça dépend de l'envergure de la plante, de la taille. On les vend suivant la taille. Ça va de 1000 francs jusqu'à 3000 francs.
En fonction de la taille.
En fonction de la taille,
c'est ça. Les centimètres.
C'est ça. De 0 à 50 centimètres. Généralement, c'est 2000 francs à 2500. Et au-delà, 1 mètre et 1 mètre plus, ça va dans les 3000 et 3000 et quelques. C'est suivant, ça dépend de l'essence, quoi.
Alors, si vous avez ces plans-là et qu'il n'y a pas de client, il n'y a pas d'acheteur, qu'est-ce que ça devient? Est-ce que de votre propre initiative, vous vous levez pour aller planter ça quelque part ou vous gardez? Parce qu'à un moment donné, plus le plan est grand, je me dis que dans vos pépinières, il sera difficile de garder ça sur place.
Oui, bon, c'est vrai. Souvent, les associations nous rapprochent pour les aider à faire ces genres d'initiatives-là, quoi. C'est la raison pour laquelle quand ils viennent, donc nous leur donnons ces genres d'essence.
Fatoumata Sidibé, on parle également de la coupe abusive du bois qui détruit également l'environnement. Quel est l'impact de cette coupe abusive-là également?
La déforestation est la plus grande impact sur l'environnement, en fait. Parce que d'abord, il faut dire que le réchauffement climatique est dû aux effets de serre qui sont lâchés dans l'atmosphère. Et il faut dire que les arbres sont plus aptes, ou on va dire c'est eux-mêmes qui absorbent ces COD. Et si on coupe les arbres, ces gaz à effet de serre restent sur le sol, ce qui augmente la température. Vous savez, quand un arbre est là, il est possible non seulement de stopper l'érosion éolienne qui est faite par le vent, l'érosion hydrique qui est faite par l'eau, la désertification, l'avancée de la désert. Donc si on coupe ces plantes, en fait, sans les plantes, ce n'est pas possible, quoi.
Mais effectivement, on dit la coupe abusive des arbres n'est pas bonne, mais au même moment, on voit toujours des sacs de charbon vendus, du bois qui est également vendu. Et ceci m'amène à vous poser une question, vous allez rire, une question un peu bête. Quel arbre abattre et quel arbre ne pas abattre?
Dans ce cas, quel arbre à abattre et quel arbre à battre
n'est pas à abattre, voilà.
Ça, c'est précisément des lois qui le décident. Oui, c'est au niveau des eaux et forêts. C'est eux qui décident quel arbre battre, quel arbre ne pas toucher, comme le chi, par exemple. Mm-hmm. Oui, le karité. Mm-hmm. Les eaux et forêts n'aiment pas qu'on touche au karité, ils n'aiment pas ça. Donc, ce sont des lois proliférées par l'État dont les eaux et forêts se chargent de faire ça. C'est sûr. Sinon, tous les arbres sont importants.
Je repose la même question. Quel arbre à abattre et quel arbre à ne pas abattre? Parce que là, on dit la coupe abusive n'est pas bonne, mais nous avons tous du charbon chez nous à la maison, nous avons du bois à la maison et nous utilisons également les produits qu'on nous vend dérivés du bois.
Oui, déjà pour la coupe, il faut comprendre que c'est pour aussi satisfaire à des besoins humains, parce qu'on a tous besoin du bois pour cuisiner dans nos maisons. Là, ça rentre dans nos alimentations. Mais si ça devient abusif, c'est ce qui est le problème. Sinon, il y a quand même les textes même qui autorisent à ce qu'il y a le coupe du bois. C'est qu'il y a le coupe du bois, comme vous voyez déjà, chaque
À quel
année.
Moment on peut autoriser qu'il y ait coupe de bois, donc?
Oui, c'est souvent des moments qui sont choisis par les services des eaux et forêts. C'est eux qui voient, qui sont dans les forêts, qui regardent déjà l'état du forêt. Est-ce que dans cette forêt-là, souvent les forêts aussi ont besoin d'être coupées, hein. Souvent on a besoin de couper, hein, pour que ça régénère davantage. Donc ce sont les eaux de forêt qui font le constat et en même temps donner des coupons de coupe donc à des personnes qui sont spécialisées et qui vont exploiter un peu cette forêt. Mais il faut savoir que derrière toute coupe de bois, il doit avoir quand même une compensation. Donc, même si vous avez un titre pour couper du bois dans une forêt, par derrière, vous devez quand même remplacer les arbres qui ont été coupés.
Mais est-ce que cette compensation se fait également? Vous allez dire que vous n'êtes pas des eaux de forêt, mais vous avez une organisation qui fait le suivi de ces choses-là. Est-ce que cette compensation se fait après coupe?
Non, ce n'est pas fait. Si vous voyez qu'on dit qu'il y a quand même la coupe abusive, ce qui veut dire que la compensation là qui est demandée, qui est même obligatoire, et c'est pas fait. Donc c'est pour cela que vraiment il y a quand même nos forêts qui s'ouvrent vraiment de ces coupes. Même pour l'implantation des infrastructures, hein, c'est pas seulement les petits exploitants hein, de forêts qui coupent. Même par exemple pour faire de la route ou bien pour faire un pont, quand même il y a des arbres qui sont abattus. Donc par derrière, ils doivent avoir quand même une compensation pour ça. Mais malheureusement, ce n'est pas fait à hauteur de soi. Mais il y a certaines entreprises qui s'exigent quand même à le faire.
Monsieur Koulibaly, vous pouvez boire de l'eau, le temps de donner la parole à Madame Sylvie. Buvez de l'eau, peut-être que ça va passer. Madame Sylvie, il vient de parler tout à l'heure de la compensation. Mais quelle politique alors mettre en place pour que, après coupe, que les gens puissent aller directement à cette compensation-là, c'est pas fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de mettre en place une politique pour mieux suivre ça?
Moi, je pense que avant une politique, ça peut être une politique, mais il faut que la population lambda arrive à prendre conscience d'abord du risque de la déforestation. Il faut que la population lambda soit informée, soit sensibilisée sur cette problème. Sur ce problème plutôt. Donc, s'il y a cette sensibilisation, s'il y a cette prise de conscience face aux dangers qu'on accourt tous, donc immédiatement, la personne qui va le couper les arbres va faire la compensation. Et plus, il ne faut pas se dire, ça c'est mon avis personnel, il ne faut pas se dire je coupe un arbre, je vais planter un arbre. Mieux vaut aussi, tu coupes un arbre, mieux vaut en planter 5 ou 3. Parce que dans toute activité liée à l'agriculture, que ce soit l'élevage, les cultures dans les champs, il y a des taux de pertes qui existent. Donc il faut mieux planter 3 à 5 arbres pour la compensation. Donc tout ne va pas mourir. Donc si tu plantes un, si y a, avec la divagation des animaux, si ça mange ça, il n'y a plus de compensation. Et toi, tu te dis que tu as fait une compensation. C'est ça, vraiment.
Mais il y a ça également. Généralement, les arbres qu'on abat très souvent, c'est dans la forêt. Mm-hmm. Mais si on fait une compensation là-bas, qui pourra aller dans une forêt suivre également l'évolution d'un arbre?
Je me dis que si, moi, je me dis que si on t'a donné l'autorisation, l'autorisation t'a été donnée par les eaux et forêts, ou soit toi-même, tu as eu le courage d'aller abattre un arbre. Abattre un arbre est plus difficile à ramasser tout le bois que d'aller suivre un arbre. En fait, avec les arbres qui ont des essences de moins de mortalité, qui n'ont pas besoin d'assez de suivi, tu peux aller le faire ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut que la population prenne conscience de tout ça. Donc, quand on a la volonté de le faire, il n'y aura aucun souci.
Et Koulibaly, je viens vers vous. Monsieur Traoré, il faut suivre un arbre pendant combien de temps, un plant pendant combien de temps? On parle de suivi et il vient de dire que non, ça peut être compensé, tu peux planter l'arbre, tout, tout, tout. Mais il faut suivre un arbre, par exemple, un exemple que je vais donner, le karité dont elle vient de dire. Comment faire le suivi d'un arbre de karité?
Non, mais en fait, c'est très intéressant de suivre un arbre à très bas, à jeune âge. Ça trouve que vraiment l'arbre est très fragile en ce moment. Ça peut souvent être attaqué par des animaux, comme elle a dit, en divagation. Ça peut même être fragile face à des intempéries. Donc, c'est pour cela que l'arbre, depuis à bas âge, une année, 2 ans, donc il faut le suivre pour pouvoir le permettre vraiment d'agrandir. Donc, faire les aérations, donc faire les désherbages, donc ça permet à l'arbre. Donc, c'est pour cela que quand vous avez parlé de forêt, il y a les services des eaux de forêt qui surveille pratiquement toute la forêt. Là où c'est vraiment accessible, vous voyez que vous allez voir que les services des eaux de forêt font des rondes pour pouvoir voir un peu comment les arbres évoluent. Et puis il y a un suivi qui est vraiment fait assez nouveau.
Vous gardez toujours la parole parce que là, je n'ai pas eu satisfaction. Je vous repose la question d'une autre manière. Est-ce que si je mets ce plan à terre, par exemple, je dois suivre ça pendant combien? Est-ce que c'est chaque mois ou c'est une fois par semaine tout, et pendant combien de temps pour m'assurer que l'arbre là va survivre et ne va pas mourir?
Oui, c'est ça que je disais. Par exemple, si c'est en domicile, chaque jour quand même, tu as ton arbre devant toi. Donc là où tu peux suivre, tu peux arroser. Mais si c'est dans une forêt, il faut quand même des temps de rotation pour pouvoir aller regarder et régulièrement. Mais en réalité, il faut quand même vraiment suivre l'arbre jusqu'à ce que ça atteigne une certaine maturité. Ça peut aller à 2 ans, ça peut aller à 3 ans, même à 5 ans. Ça dépend de la croissance des arbres. Il y a des arbres qui croissent très rapidement, mais il y a des arbres qui... Mais si ça atteint un certain niveau de maturité, là où vraiment la fragilité, ça devient moins. Et là, tu as vraiment toutes les chances à ce que cet arbre-là survive.
Est-ce qu'il y a un état de fragilité sur lequel on peut s'assurer que oui, ce plant peut vivre?
Oui, bon, quand tu regardes un peu le tronc de certains arbres, à travers même le tronc, vous allez voir que vraiment cet arbre-là peut résister à beaucoup de choses. Donc c'est pour cela que j'avais parlé d'âge. Donc, qu'il faut voir en fonction un peu de des espèces.
Voilà. Monsieur Koulibaly, je viens vers vous à présent. Est-ce que vous êtes impliqué dans ces campagnes de reboisement du début à la fin? Le mois tend vers sa fin. Est-ce que dès le début, on vient vers vous être impliqué dans cette initiative-là?
Bon, rarement, on nous appelle pour participer à ce genre d'initiative qui est à saluer d'ailleurs. Voilà. Sinon, je me rappelle... Une ou deux fois, on a été appelé pour participer au reboisement. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc on nous appelait rarement. ce que je vais vous dire.
Alors, selon vous, quelle peut être aujourd'hui la meilleure manière d'impliquer la population? Votre co-débattrice Fatoumata vient de le dire, que la population manque un peu d'informations également par rapport au reboisement. Comment faire aujourd'hui pour les impliquer, pour mieux comprendre les effets de la coupe abusive des arbres et s'impliquer un peu dans cette campagne-là?
Bon, pour impliquer la population, il faut une grande sensibilisation. Il faut commencer d'abord aux familles. Il faut commencer d'abord aux familles, et puis dans les écoles, et puis à toutes les langues, pour que les jeunes enfants, voilà, puissent s'imprégner du problème des reboisements. Voilà, c'est ce que j'ai à souligner.
Alors, je vais vous poser une dernière question, le temps de faire un tour de table. Le désert avance, la température augmente au fur des années, la pluviométrie a beaucoup diminué. Quel rôle jouent les arbres pour atténuer tout cela et quel comportement nous devrions adopter? Je commence par vous, Madame Sidibé.
C'est ce que j'avais dit. Les arbres, non seulement permettent de... Comment on va dire, d'élaborer, de prendre les COD dans l'atmosphère, mais les arbres aussi permettent de stopper l'avancée du désert. Et il faut souligner aussi, quand il y a une déforestation abusive, la terre va rester comme ça, il y aura dégradation. Donc avec une dégradation, c'est plus facile avec l'avancée du désert. Aussi, ça permet aussi les arbres une infiltration d'eau. Ceci dans les nappes phréatiques, ce qui peut augmenter l'humidité aussi. Donc, le reboisement n'a pas de conséquences. On dirait que ça a toujours un bienfait.
Un bienfait.
Oui.
Monsieur Traoré, également la même question pour vous. Qu'est-ce que ces arbres-là peuvent apporter aujourd'hui à contrer tout ce problème environnemental que nous voyons aujourd'hui?
Oui. Non, mais cela s'explique déjà par des différentes dynamiques qui se voient actuellement autour du reboisement. Même si seulement on prend l'exemple, si l'initiative de la Grande Muraille Verte, et qui est une initiative panafricaine sur 11 pays et de l'Afrique à la porte du désert, vous allez voir que déjà, il y a quand même tous les avantages du reboisement qui se trouvent un peu dans ça. Parce qu'on s'est dit aujourd'hui, pour lutter efficacement contre le changement climatique et contre l'avancée du désert, il faut vraiment planter, suffisamment planter, et planter vraiment avec toute efficacité. Planter avec toute efficacité chez nous, c'est quoi? Donc, vous avez planté, mais par derrière, vous avez fait un suivi et vous avez fait des entretiens pour pouvoir permettre à ces arbres-là de se suivre. Donc, c'est pour cela que c'est à cette condition seulement que les arbres peuvent vraiment contribuer à arrêter un peu la désertification.
Alors, vous avez parlé de cette initiative de la Grande Muraille Verte. Il y a également les rencontres sur le climat qui se déroulent chaque année. La COP et toutes ces actions-là également, à chaque fois qu'on voit ces différentes actions, les conclusions également peinent à être appliquées dans le pays.
Oui. Oui, bon, souvent, on a tendance à croire que les conclusions ne sont pas appliquées. Mais quand tu vois souvent sur le terrain, vous allez voir que certaines de ces conclusions-là sont appliquées par les communautés. Parce que déjà, c'est des grandes décisions qui sont prises, mais les populations étant déjà conscientes de la problématique font déjà certaines activités. Par exemple, quand on voit dans les milieux ruraux, les populations qui sont là, ils font des reboisements chaque année. Personne ne leur demande de le faire, mais eux-mêmes, ils savent que vraiment, pour vraiment donner un peu d'arbres dans leur localité, il faut qu'eux-mêmes ils plantent. Vous voyez déjà, donc il y a pas mal d'initiatives qui sont là, même au-delà même de tout ce qui est décidé au niveau de COP ou bien de grandes conférences. Déjà, les gens ont conscience et ils travaillent déjà pour pouvoir quand même freiner un peu l'avancée du désert et de lutter contre le changement climatique.
Madame Sidibé, freiner un tout petit peu l'avancée du désert, cela veut dire qu'également le Sahel, également, il y a plusieurs pays, il faut une synergie d'action également. Est-ce que si un pays prend l'initiative aujourd'hui de faire des plans un tout petit peu, ça peut, et de l'autre côté, ça ne se passe pas, est-ce que ce genre de décision, d'initiative peuvent entraver un tout petit peu?
Si, exemple, le Mali décidait de faire le reboisement, si le Niger ne le faisait pas, En fait, le faire sur tout l'étendue, c'est ce qu'on conseillerait partout dans le monde, mais pas assez. Parce que le Mali, si le Mali fait, exemple, un reboisement au niveau de Ségou, ce que le Mali veut, c'est que l'avancée du désert vers le centre du pays s'arrête. Donc forcément, il y aura moins d'impact, moins d'avancée du désert. Donc ce n'est pas parce qu'eux ne font pas de reboisement qu'on aura une avancée, non.
Et quel rôle joue l'eau? Qui dit reboisement également parle de l'eau, parce qu'on dit également que le climat, les changements climatiques, ça a beaucoup joué sur la pluviométrie également. Comment atténuer ces effets-là également sur les plans?
Alors sur les plans de reboisement au niveau des forêts, il faut les faire pendant l'hivernage. Il faut le faire pendant l'hivernage. Et il faut dire qu'après un suivi, un très bon suivi de ces plantes, si ces plantes arrivent à régénérer, les plantes même ont la capacité de rétention d'eau. Vous allez voir des plantes caduques qui perdent toutes leurs feuilles pendant les saisons chaudes, mais ça ne meurt pas. Donc, ils ont une capacité de rétention d'eau et ils ont une capacité de rétention d'eau sur les nappes phréatiques. Donc, maintenant, dans les champs, pour réduire ça, ça sera aussi la plantation. Parce que les plantes comme le papayer, qui sont bons dans les champs, vont faire de l'ombrage sur la culture. Ce qui va permettre aussi de réduire le fait de la température et du soleil.
Monsieur Koulibaly, il vient de le dire également. On constate également qu'au Mali, pour les champs également, beaucoup de personnes misent également sur les agrumes. Est-ce que pour la plantation de ces agrumes-là, il y a des procédures à suivre pour mieux le faire?
Oui, il y a des procédures. Pour quelqu'un qui veut faire un verger, par exemple, il y a aussi des préalables. Il faut choisir le site que tu vas planter. Bon, il faut voir sur le site, si il y a assez de terre, s'il n'y a pas de cailloux en bas, quoi, voilà. Voilà, il faut faire des prospections du sol. Si le sol est profond, donc vous pouvez faire votre plantation de verger.
Alors, je pense que c'est sous vos mots que va prendre fin cette émission du Grand Dialogue qui réfléchissait que deviennent les plans après reboisement. Grand merci à nos invités, Brima Traoré, président de la plateforme Climat et Adaptation, Fatoumata Sidibé, agroécologiste et membre du RESAPEC, Moussa Koulibaly, pépiniériste. À la régie son et vidéo, il y avait Adjaratou Traoré et Gagné Kanté. Je suis Mariam Maïga. Grand merci à vous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois.